France Musique.
Jeudi 8 juillet, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France Musique. Jean-Claude Mulet à la réalisation, Yann Maran à la technique. J'ai le plaisir de vous présenter effectivement cet agenda de l'été depuis les studios de France Bleu Provence qui nous accueillent généreusement aujourd'hui et demain. Nous sommes donc au plus proche du festival d'Aix-en-Provence, ce fabuleux festival d'opéra. Nous aurons d'ailleurs le plaisir de recevoir ce midi la metteuse en scène Sylvia Costa et la mezzo-soprano Lucille Richardot, toutes deux à l'affiche de Combattimento, la théorie du cygne noir. On recevra aussi une autre mezzo-soprano française, Léa Desandré, qui campe chérubin dans les Noces de Figaro de Mozart. Je vous offrirai aujourd'hui des places pour le concert que donnera l'Orchestre Symphonique de Londres. Ce sera le 14 juillet dans le cadre du festival. Et je n'oublierai pas, bien sûr, notre séquence La vie du public. C'est Jacques, fidèle festivalier, qui partagera avec nous son amour pour cet événement aixois. Allez, pour démarrer, un petit avant-goût de ce qui vous attend ce soir sur France Musique en direct. Tristan et Isolde de Richard Wagner. Simon Rattle dirige ici l'Orchestre Symphonique de Londres.
Thank you.
Les premières mesures de ce prélude de l'acte 3 de Tristan Isolde de Richard Wagner, toute la finesse ici de l'Orchestre Symphonique de Londres, Simon Rattle, extrait eh bien, de cette captation. Prise de son Rafik Evorkian, Pierre Bornard et leur équipe, tant de beauté à écouter ce soir en direct sur France Musique. Tristan et Isolde diffusés depuis le Grand Théâtre de Provence à Aix-en-Provence. Ce sera dès 18h avec Nina Stemme, Stuart Skeldon dans les rôles titres, rien que ça. Rendez-vous donc avec Judith Chen ce soir pour ce magnifique opéra. Et puis, dans quelques jours, le 14 juillet, Simon Rattle cédera la baguette à Susanna Melki et Clément Maotakach qui dirigeront l'Orchestre Symphonique de Londres le temps d'un concert avec cette très belle programmation également. Les musiciens proposeront 5 reflets, une suite tirée de l'opéra L'Amour de Loin de Kaya Sarriao. Également au programme le concerto pour violon de Stravinsky joué par Patricia Kopaczynskaya, la 7e symphonie de Sibelius aussi. Et puis les impressionnantes Océanides de Jean Sibelius qu'on va entendre dans une poignée de secondes. Pour tenter votre chance et assister à ce concert du Festival d'Aix-en-Provence, ce sera donc le 14 juillet à 20h au Grand Théâtre de Provence. Rendez-vous sur la page de l'émission L'Agenda de l'été sur francemusique.fr. Vous cliquez sur « Contactez-nous », vous nous laissez vos coordonnées et puis la bonne réponse à cette question. En quelle année le Festival d'Aix-en-Provence a-t-il été créé? Est-ce en 2020, en 1948 ou en 2007? Votre réponse sur francemusique.fr. Bonne chance à vous.
Thank you.
Simon Rattle à la direction de l'orchestre symphonique de la ville de Birmingham. Extrait de ces Océanies de Jean Sibelius à midi et 15 minutes.
C'est l'été sur France Musique. Saskia Deville, l'agenda de l'été.
Et j'ai le plaisir d'accueillir dans le studio de France Bleu Provence la metteuse en scène Sylvia Costa et la mezzo-soprano Lucille Richardot. Vous êtes toutes les deux à l'affiche de Combattimento, la théorie du cygne noir, à l'affiche du Festival d'Aix-en-Provence cette année dans la fosse l'ensemble correspondance. Sébastien Dossé à la direction, un spectacle atypique, un opéra qui n'existait pas jusqu'alors, Sylvia Costa.
Ouais. Bonjour à tous. Bah, en effet, c'est pas un opéra, mais c'est, en effet, on a créé notre propre création à travers une sélection des musiques avec la collaboration de Sébastien Dossé. Et donc, en effet, c'est difficile de la nommer avec un mot qui rentre un peu dans une cage parce que on raconte une histoire, on fait traverser le spectateur un parcours, mais on fait appel, en fait, à plusieurs créations, à plusieurs, même la plupart des des compositions, c'est avant même, la naissance de l'opéra, comme on la connaît aujourd'hui. Donc,
Alors, que nous raconte justement cette histoire?
Ben en fait, avec Sébastien, à partir de la proposition du directeur du Festival d'Aix-en-Provence, Pierre Audi, qui avait, nous, laissé la carte blanche sur une création à partir de Madrigo de Monteverdi. En fait, avec Sébastien, on s'est dit, on va commencer pour le Combattimento de Monteverdi. Donc, cette pièce qui est vraiment une sorte de rupture avec tout qu'est-ce que c'était avant et ça a donné les départs de tout qu'est-ce que c'était après pour la musique. On s'était dit, on prend cette masterpiece et on part de là pour comprendre qu'est-ce qui se passe après. Parce qu'en effet, le Combattimento est tiré d'un livre, la Jérusalem délivrée, qui est une saga énorme. Et là, on raconte vraiment un petit extrait. Et on s'est dit, à partir de ça, donc à partir de cette œuvre qui, pour nous, c'était vraiment la matrice, qu'est-ce qui se passe? Et donc, c'était vraiment une sorte de composition dramaturgique en se questionnant nous-mêmes, donc à la fin du Combattimento, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la mort déclarant, il y a un corps mort. Qu'est-ce qui se passe, nous, devant un corps mort? Et donc, c'est tout qu'est-ce que ça déplie, les larmes, la perte d'un amour, mais c'est aussi la perte d'un futur, et donc la douleur. Et donc, on a développé les concepts du deuil, de la perte, à partir de deux personnages, donc Tancred, Clorinda, guidés et racontés par Testo, de cette deux singularités-là, comment ce deuil personnel de Tancred, ça résonne dans une communauté. Donc on a élargi pendant les larmes, on a créé cette communauté qui ça ressemble autour d'un corps, d'un mort. Et après ça, encore, c'est pas fini pour nous. Qu'est-ce qui se passe encore après que tout était sorti, toutes les larmes, tout le corps est vidé.
Comment est-ce qu'on se reconstruit?
C'est ça. Donc, on a conçu après une troisième partie dans laquelle, aussi, en se faisant inspirer des lectures comme Didi Huberman, Peuple en larmes, peuple en armes. En fait, les larmes sont aussi une puissance, en fait. Donc, les larmes tracent les roues, construisent les villes, ils marquent l'histoire. Et c'est à partir de là qu'on a conçu donc, la troisième partie qui part avec une exhortation de Cecità du Misero Mortale. Et pour en suivre vers, en fait, quand on s'est reconstruit, pour nous, c'était surtout la lueur de l'utopie. Donc, quelque chose qui est plutôt un élan, plutôt qu'un objet concret, et c'est une sorte de ville imaginaire, c'est surtout le pouvoir de l'imagination que l'être humain cherche au moment des catastrophes, en fait, comment on se reconstruit.
Voilà, au moment où il vit un événement bouleversant, tragique, évidemment. Alors, la partition a été constituée, hein, vous le disiez en quelques mots, en d'autres mots, de lamentations, de madrigaux, d'air ou de pièces instrumentales écrites par Monteverdi, qui est donc à la base de ce projet. Il y a aussi des œuvres de Luigi Rossi, Francesco Cavalli, Giovanni Battista Buonamante, Giacomo Carissimi, Tarquinio Merula, notamment, chère Lucille Richardot, racontez-nous quel rôle tenez-vous vous dans cette histoire?
Alors c'est un rôle sans en être, c'est un extrait de, d'une lamentation de Décube, qui est donc la mère de, enfin qui est la femme de Ménélas, je ne sais plus. Enfin bref, c'est un épisode de Troie. Hécube qui se lamente sur les ruines de Troie. Tout le monde est mort, sauf elle. Pas encore morte, mais ça va pas tarder. mais donc à ce moment-là, c'est plutôt cet extrait de la Didone de Cavalli qui est sorti de ce contexte troyen pour en faire la lamentation d'une mère sur la perte de sa fille, qu'on imagine être Clorinde, et puis s'enchaînera ensuite la lamentation d'une fille. Enfin, c'est plutôt des lamentations assez féminines, finalement. Et donc, le personnage est sorti de ce contexte-là pour le faire rentrer dans cette universalité
dans
de douleur et de déploration.
La théorie du signe noir, évidemment. Voilà. Qu'est-ce qui vous fascine dans ce répertoire, Lucile Richardot?
Bah, c'est l'extrême vocalité, l'expression, des expressions assez extrêmes d'affect, la liberté aussi, parce que c'est quand même des formes très, très, très rigides, j'allais dire, très écrites, parce qu'on a, c'est toujours des airs qui commencent par des longs récitatifs, avec beaucoup de textes, beaucoup de choses à mâcher, à disséquer, à se mettre bien en bouche et à restituer au public avec toute la sincérité ou toute la théâtralité plutôt. Et après, on part sur toujours ces rythmes ternaires de Chacon, de Passacaille, qui sont vraiment le substrat de la lamentation. C'est comme un rouleau compresseur de sentiments, de douleurs et tout ça. Donc on aime bien quand ça retourne comme ça, le couteau dans la plaie, et donc c'est souvent associé à des rythmes ternaires.
Vous en parlez avec beaucoup de passion.
Ah oui, bah il vaut mieux. Il vaut mieux. Oui, c'est vraiment, moi j'aime toutes les musiques, mais c'est vrai que c'est le lieu de toute la débauche d'expressivité. Il y a quand même des tempéraments italiens que ne me contrediront pas les Italiens qui sont dans notre équipe, et notamment Sylvia.
Vous connaissiez tous les airs qui étaient proposés dans le cadre, qui sont proposés dans le cadre de ce spectacle?
Même pas.
Il reste plein de choses à découvrir.
Oui, je pense qu'en fait, on n'a tiré qu'un petit bout de fil et il reste encore toute la pelote à venir. Mais effectivement, cette lamentation des cubes, donc Hécuba, puis l'autre, c'est pas une lamentation, c'est plutôt un grand récit dramatique, solennel, très impressionnant de l'arrivée de la nuit à la fin. Donc la notte qui s'exprime dans le Legisto de Cavalli, donc un autre opéra de Cavalli. Ça, on est vraiment dans des paradigmes du genre. C'est des grandes scènes très impressionnantes, très autoritaires, très charismatiques, ou alors très très plaintives, très très débordantes, de très dégoulinantes, quoi. C'est tout ce qu'on aime.
Notte in un punto per te. guarda il sangue nostro e sia questo misero ventre onde nascesti lacerato non lunge dal tuo petto riunisca la morte ciò che nascer divise della madre e della figlia esangue vada in sepolcro ad abbracciarsi il sangue
Tancrède qui se retrouve sur le champ de bataille et qui affronte sans qu'il le sache celle qu'il aime, Clorinde. Il la tue. Alors autour du deuil se construit une communauté. Une mère se lamente. Ici, chantée par Lucile Richardot, accompagnée par l'ensemble Correspondance et Sébastien Dossé. Alors ces personnages s'en relèveront-ils? Y puiseront-ils la force dont ils auront besoin pour se reconstruire, pour se réinventer? Pourquoi pas? Voilà donc la trame de ce combattimento, la théorie du signe noir, spectacle à l'affiche du Festival d'Aix-en-Provence jusqu'au 18 juillet, je suis en compagnie de la metteuse en scène Sylvia Costa, de la mezzo-soprano Lucile Richardot ici en studio. Un spectacle chargé d'émotions, une musique qui nous transporte encore, on l'écoutait à l'instant. Qu'avez-vous imaginé justement pour habiller cette histoire, Sylvia Costa?
J'ai voulu concevoir en effet le combattimento un peu à part, disons, avec une sorte de... impulse visuel surtout, et comme si Tancrède et Clorinde étaient comme deux sortes d'émanations entités à travers tout un langage qui fait appel à la vision binoculaire, parce qu'en effet ces deux personnages pour moi sont en contraste mais aussi en symbiose, donc c'est comme l'œil droit, l'œil gauche, tu as besoin de deux pour voir bien, donc en fait il y a beaucoup de jeux visuels, la machinerie théâtrale est poussée à fond dans cette partie-là, et je voulais pas laisser un respire au spectateur à travers les images, et voilà, tout c'est lié beaucoup à, voilà, au rapport à la vision, donc à la mise à feu. Parce qu'en effet, c'est une mise à feu que Tancrède est sa faute, en fait, de voir qu'est-ce qui est, il a vraiment devant ses yeux. Et après, à partir de cette expérience, dirais, visuelle, avec beaucoup de champignons de couleurs primaires, de l'araldique aussi, il y a un travail des costumes assez important qui a été fait.
Qu'est-ce que vous espérez susciter chez le spectateur?
Ben moi, voilà, à ce moment-là, pour moi, c'est une expérience avec les yeux, avec les regards. C'est pour cela que je fais appel, comme je disais, à des expériments aussi qui sont utilisés pendant les tests de vision avec des champignons verts et rouges. Donc, en fait, on appelle vraiment, est-ce que tu vois mieux dans la partie gauche ou dans la partie droite. Donc, pour moi, c'est cette sorte de balance entre deux côtés.
C'est une manière inconsciente de prendre parti aussi?
Non, mais en fait, finalement, tu ne prends pas parti parce que justement, ça bascule tout le temps. Et donc, c'est en effet, pour moi, les métaphores du combat qui se passe entre ces personnages, mais qu'ils n'ont pas, en effet, ils sont des personnages, mais pour moi, ce sont des entités. Pour ça, ce sont des champignons de couleurs, ce sont des corps qui ont des signes héraldiques sur eux. Donc on passe par un monde qui est tout à fait connecté par quelque chose qui passe surtout sous la composition graphique et esthétique. Donc pour moi c'était une expérience, impulse. C'est pas laisser le spectateur réfléchir même, recevoir toute cette histoire dans cette rapidité, dans cette la musique.
Cette urgence, en
fait. C'est ça. La musique a des moments vraiment qui... tu ne peux pas respirer toi-même dans l'écoute. Donc, il y avait ça dans ma volonté. Et après ça, donc, au moment que le corps de Clorinda, en effet, reste... examine au sol, ça commence, on rentre dans des chambres que... moi, je pense que dans les concepts de scénographie, je dirais que c'est des chambres sensibles, donc en fait où s'espace cette émotion, cette prise de parole, cette construction aussi. Donc en fait, ce sont des chambres où il y a des actions très concrètes, mais c'est surtout l'esprit qui guide cette action, qui l'espace faire, qui l'espace entoure.
Lucile Richardot, peut-être, si vous ressentez justement vous cette urgence aussi dans la communication que vous établissez avec les spectateurs.
Mm-hmm. Bah justement, enfin moi ce que j'en ai vu de l'extérieur, parce que je ne suis pas dans la scène du combattimento, forcément ça
Absolument.
N'expose que trois personnages, dont celui le plus remarquable, c'est le narrateur. Paradoxalement, c'est quand même ça qui fait aussi toute l'étrangeté et le côté inclin classable de ce combattimento di Tancredi et Clorinda. En fait, comme disait Sylvia, on laisse jamais le spectateur et l'auditeur en repos, parce qu'il y a toujours des nouvelles choses qui sortent des costumes. C'est vraiment une super trouvaille. Il y a toujours quelque chose de nouveau qui descend des cintres, des nouveaux accessoires qui apparaissent. C'est une fulgurance de couleurs. Et puis pour nous, on est jamais en repos non plus, ni dans la fosse, ni les chanteurs. Dès que quelqu'un a fini de chanter un petit solo, tout de suite, il est rattrapé par le groupe, par la polyphonie qui le porte, et on passe à un nouveau feu d'artifice sonore. Si ce n'est un feu d'artifice visuel ou un feu d'artifice bruitiste, puisque là, il faut pas s'inquiéter, les transistors étaient pas mal réglés, c'est que je casse des choses sur scène.
Oui, on a entendu
pendant l'air
de
tout à l'heure.
L'air
et après,
précédent.
Ça finit de tomber, donc effectivement, il y a toujours un nouveau truc qui arrive et qui nous laisse jamais en repos et jamais en repos, en paix cérébrale non plus, si ce n'est acoustique.
Voilà. Le combattimento, la théorie du signe noir, à voir donc au festival d'Aix-en-Provence. Il reste 5 dates, 9, 10, 14, 16 et 18 juillet, c'est à 20h. Venez donc découvrir ces artistes sur scène.
Thank you. sia mormorando un piccolo rio. Egli accorse per l'elmo in piena il fonte. Grande ufficio e mio. Trema, sentita man, entre la fronte non conosciuta ancor sciolse. E scrivo, la vide, e la conobbe.
Un extrait de ce Combattimento de Tancrède et Clorinde de Claudio Monteverdi, chanté ici par Valerio Contaldo, Julie Rosset, l'ensemble correspondant Sébastien Dossé à la direction. Combattimento de Monteverdi, socle de ce spectacle. Combattimento, la théorie du signe noir, à découvrir donc au Festival d'Aix-en-Provence. Ici, ces extraits enregistrés par Alice Legros et Jean-Louis Deloncle et leurs équipes pour la prise de son. C'est un spectacle qui a été diffusé hier soir en direct sur France Musique. Vous pouvez donc vous connecter sur francemusique.fr et aller le réécouter quand vous le souhaitez. Merci beaucoup Sylvia Costa et Lucille Richardot d'être venues nous voir ce midi sur France Musique.
Merci Saskia.
À bientôt.
Merci.
C'est l'été sur France Musique. Saskia Deville, l'agenda de l'été.
Nous sommes à Aix-en-Provence et voici notre séquence, la vie du public. Parole de festivalier à propos du Festival d'Aix. J'ai le plaisir d'accueillir ce midi Jacques. Bonjour Jacques.
Bonjour Saskia.
J'ai cru comprendre que ça faisait quelques années que vous assistiez au Festival d'Aix-en-Provence. Je me trompe ?
Non, vous ne vous trompez pas. C'est pudique de dire quelques années parce que je dois faire partie, je pense, des plus vieux festivaliers.
C'est vrai ?
Oh, presque. Car j'ai commencé en 1961.
En 1961. Quel âge aviez-vous, donc, si, sans vouloir être indiscrète ?
J'allais avoir 15 ans.
15 ? Ah oui, vous étiez jeune.
Ah oui, j'étais tout jeune.
C'était vos parents qui vous y...
Pas du tout, mais mon père était assez opposé à la musique, alors que ma mère était très musicienne. Donc, en fait, j'ai été un peu brimé de ce côté-là. Et des amis de mes parents m'ont invité un week-end à Aix-en-Provence, qu'ils habitaient Aix-en-Provence, et ils m'ont emmené au Miracle, au festival, pour écouter Così fan tutti. Et j'ai découvert Teresa Schinandel et Teresa Berganza. Ça a été lumineux. Je me souviens, c'est la journée la plus lumineuse que j'ai eue de ma vie. On avait passé la journée en bateau et le soir, arrivé à l'archevêché pour découvrir ce qui était mon premier opéra, je n'étais jamais allé à l'opéra.
Et alors, depuis, vous êtes devenu un mordu d'opéra, en tout cas un mordu du Festival d'Aix.
Un accro, puisque chaque année, j'y suis retourné. Même étudiant, j'ai convaincu des amis à venir camper sur le camping d'Aix-en-Provence pour aller le soir écouter et voir des spectacles à l'opéra, à l'archevêché. Et j'ai eu après pratiqué, si je puis dire, mon goût de l'opéra avec un sens presque de la collection. Et ça a été, je n'ai pas manqué pratiquement un seul rendez-vous chaque année avec Aix-en-Provence.
Et comment décririez-vous l'ambiance de ce festival ?
Au début, j'adorais au contraire ce côté un tout petit peu raffiné, etc. Et que le festival a su garder tout en se transformant, car j'admire l'ouverture du festival depuis maintenant des décennies, alors qu'il paraissait, si je puis dire, un tout petit peu plus élitiste ou entre soi au départ. Mais l'aspect de grand raffinement musical, cette façon de choisir les artistes, les metteurs en scène, etc., et les chefs d'orchestre, je l'ai admiré de bout en bout. Et à la fin, j'ai tellement admiré que j'ai fini par être ami avec certains des organisateurs. Et j'ai créé un tout petit bout de festival avec des amis en Normandie, et c'est Gabriel Duchurgé qui nous a donné des conseils.
Ce qui est pas mal, fondateur du festival tout de même, Festival d'Aix.
Voilà.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jacques, d'avoir été avec nous pour partager ces souvenirs et cette découverte et ce plaisir que vous avez à aller à l'Opéra et au Festival d'Aix en Provence plus particulièrement. Bonne suite de festival et puis à bientôt.
Voilà, merci beaucoup.
Merci à vous. Au revoir.
Oh!
Bonjour Léa Desandré.
Bonjour Saskia.
On a le plaisir de vous avoir avec nous ici sur France Musique par téléphone. Hein. Vous avez quitté Aix quelques heures, le temps finalement de prendre un petit peu l'air entre deux productions, entre deux prises de rôle de ce rôle magnifique chérubin dans Les Noces de Figaro de Mozart à l'affiche du Festival d'Aix-en-Provence. Si on devait résumer cet opéra, l'intrigue est complexe. Hein. Suzanne, la servante de la comtesse Almaviva, est promise au valet Figaro, mais elle est harcelée par le comte. Ça, c'est juste le point de vue de Suzanne. Après, l'intrigue se développe. Il y a d'autres personnages comme ce rôle que vous incarnez, Léa, l'adorable chérubin, le délicieux chérubin. Finalement, une comédie qui met les femmes au centre de l'action et qui est d'une actualité folle. D'une époque à l'autre, des femmes résistent aux hommes de pouvoir. Quel regard portez-vous sur cette histoire, Léa Desandré?
Écoutez, je trouve que c'est une œuvre extrêmement moderne qui résonne avec l'actualité et avec le monde dans lequel on vit. Encore plus dans la mise en scène de l'hôte de Berck que nous donnons ici au Festival d'Aix-en-Provence. C'est une œuvre actuelle et assez universelle que je recommande à tous.
La mise en scène est effectivement l'œuvre de la néerlandaise Lotte de Beer. La mise en scène est hilarante. Elle nous plonge, du moins dans les deux premiers actes, dans une atmosphère de série comique américaine des années 80. Et Chérubin joue un rôle très actif. Comment avez-vous, Léa, investi cette mise en scène, justement ?
Écoutez, ça a été un vrai parcours, très physique et aussi mentalement assez prenant, parce qu'en fait, on n'arrête pas pendant mes deux premiers actes. C'est comme une horloge suisse, tout est calé à la minute près, à la seconde près, et on enchaîne beaucoup, beaucoup d'actions qui font que les deux premiers actes sont très intenses, notamment en termes de gags. Je ne dévoilerai pas les quelques grands gags qu'on a, mais c'est un vrai... c'est un sprint, quoi, ces deux premiers actes. Et je trouve que la mise en scène de l'auto colle parfaitement avec la musique de Mozart. On dirait presque que ça a été écrit pour être traité comme ça, comme une sorte de série des années 80. Ça fonctionne à merveille, en tout cas pour nous. C'est un vrai plaisir, on s'y retrouve.
Et c'est vrai que c'est l'avantage avec Mozart. Hein. Tous les effets sonores, tous les gags sont déjà presque présents dans la musique. Ça dit, il faut les adapter à l'humour d'aujourd'hui, traduire l'humour d'aujourd'hui, 235 ans après la création de l'œuvre. En tout cas, il y a un personnage qui est lui aussi universel. On pourrait presque se reconnaître. Chacun d'entre nous pourrait se reconnaître dans ce personnage. C'est celui de Chérubin.
Oui, absolument. Je crois que tout le monde peut s'identifier à Chérubin. Tout le monde est passé par cette période de la vie où on tombe amoureux, on connaît nos premiers émois, nos premiers sentiments très forts, amicaux, des premières ruptures. Et voilà, Chérubin, c'est un petit peu le moment où tout ça éclot et on le vit avec lui sur scène. Et dans cette mise en scène, on l'a traité de manière, je dirais, assez douloureuse. Il y a une vraie empathie qui s'installe avec le personnage. Comme vous disiez, Saskia, c'est un personnage qui est universel puisqu'il résonne en chacun de nous. Et on a voulu en faire un chérubin victime de ses sentiments, qui ne comprend pas ce qui lui arrive, qui est en souffrance et qui demande de l'aide plus que qu'un personnage exalté ou certes en proie à ses sentiments, mais dans une énergie plus haute. Là, c'est quelque chose du domaine de presque de la douleur, quoi. Il a besoin d'aide et je pense que c'est ça aussi qui le rend touchant et on a envie de le prendre dans ses bras peut-être, je ne sais pas, mais voilà.
Merveilleux personnage que vous incarnez pour la toute première fois sur scène, hein, ce jeune adolescent qui aime toutes les femmes. Cette prise de rôle, c'est un moment important, vous, dans le développement de votre carrière, c'était un moment attendu ?
Oui, absolument. Le personnage de Chérubin, ça fait des années que je le travaille. C'est un des premiers rôles que j'ai travaillé depuis que j'ai 12-13 ans. Et donc ce moment, c'est un moment dont je me souviendrai toute ma vie. Et puis c'est aussi le début d'une grande aventure avec Chérubin, parce que j'ai, dans les deux prochaines années, j'ai 7 productions des Noces de Figaro qui m'attendent.
Ah, quand même.
voilà. Je crois qu'il y a une belle histoire qui va se créer entre Chérubin et moi. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir justement où et comment des chefs et des metteurs en scène différents peuvent nous amener dans une lecture de l'œuvre différente.
Et du personnage. Les Noces de Figaro sont à réécouter sur francemusique.fr. La production a été diffusée le 5 juillet, il y a quelques jours, sur nos ondes. Et sinon, si vous voulez découvrir tout cela en images, rendez-vous demain soir à 22h30 sur Arte Concert, pour découvrir donc cette réjouissante production qui nous fait tellement de bien ce début d'été. Merci beaucoup Léa Desandré d'avoir été avec nous sur France Musique. Et puis j'ai une dernière petite question. Que fait-on à Aix-en-Provence en journée en attendant la représentation du soir? Vous avez une recommandation à partager à nos auditeurs festivaliers?
Alors, je vous recommande vivement d'aller au Caprice de Capou. C'est une pizzeria merveilleuse et ça vous préparera bien pour le spectacle, pour tenir pendant ces presque 4 heures de spectacle pleine d'émotions. Il faut faire le plein d'énergie.
Mais quel délicieux conseil. Merci beaucoup Léa et à très bientôt sur France Musique.
À bientôt, merci Saskia.
Thank you.
le final de nos The Figaro de Mozart ici avec l'orchestre Balthazar Neumann, le Balthazar Neumann Ensemble dirigé par Thomas Engelbrock, prise de son Arnaud Moral et Christian Laundès et leur équipe. Opéra à réécouter donc sur francemusique.fr et à découvrir en images demain soir, ce sera à 22h30 sur Arte. Allez, nous refermons l'agenda de l'été avec le résultat de notre concours. Le Festival d'Aix-en-Provence a bien été créé en 1948. Les chanceux gagnants iront assister au concert que l'Orchestre Symphonique de Londres donnera le 14 juillet prochain au Grand Théâtre de Provence. Dans le cadre du festival, ils seront prévenus par courriel. Un autre rendez-vous à vous rappeler, bien sûr, chers auditeurs. Ce soir, Tristan et Isolde Wagner diffusant en direct sur France Musique depuis le Grand Théâtre de Provence. Ça commence à 18h et c'est avec notre très chère Judith Chen. Il me reste quelques secondes pour remercier toute l'équipe, Jean-Claude Mullet, Yann Maran, Marie-Christine Ferdinand et Floriane Etno. Merci à France Bleu Florence. Oh, je vais y arriver. Merci à France Bleu Provence. C'est encore mieux quand c'est bien dit de nous avoir accueillis dans leur studio aujourd'hui. À suivre, les trésors de France Musique avec Françoise Monteil. Très bonne journée sur France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.